Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 23 mars 2026, il est 21h32. Alors je suis désolé, on est sur un stage un peu spécial ce soir parce que j'ai pas ma femme qui est en formation à l'autre bout de la France et du coup il faut pas que je sois trop loin des enfants pour faire mon émission. Donc je vous le fais d'ici et j'espère que ça posera de problème à personne, mais de toute façon je n'ai pas le choix. Pour les mêmes raisons, je vais éviter de faire des effets, je pense que je vais appeler le générique, etc. ce soir. Et je pense qu'on va se contenter de faire un... D'ailleurs, il est intitulé Live spécial, et je pense qu'on va effectivement faire un live spécial classique, c'est-à-dire que je répondrai aux questions des abonnés dans le live, et ça m'évitera de faire trop de tralalilala, parce que je vais... C'est déjà assez... J'ai déjà l'impression de camper, donc ça va être un petit peu compliqué à gérer. Voilà. Alors, pour commencer, donc on va parler de ce sujet des municipales, qui est... alors j'espère que je vais essayer de faire ça de manière un petit peu plus intéressante que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on manquait de résultats, hein, et cette semaine, on en a. Et en même temps, il y a eu tout ce qui s'est passé pendant la semaine avec le changement justement des mentalités, un peu les discussions politiques. Ça a donné lieu à plein d'expérimentations, des endroits, des villes où la gauche s'est allée à l'extrême gauche, le PS avec LFI, d'autres endroits où il a refusé ça. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les débats politico-politiciens comme on peut les entendre partout sur les chaînes d'info en général. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est ce que tout ceci dit de l'évolution du clivage, en fait. Parce que pour moi, ce qui caractérise ce qu'on voit depuis ce qu'on a vu, la séquence en fait, qui est en cours, c'est précisément que ce qu'on a annoncé sur l'évolution du clivage s'intensifie, en fait. D'une part, ça c'est la première chose, donc la question de l'évolution du clivage. Et sur la deuxième chose, je vous avais dit que, d'après moi, c'est du point de vue de la révolution en France, ces élections municipales devraient donner des éléments intéressants et être un moment intéressant. Alors, ça n'a pas été tellement le cas là où, enfin, je m'y attendais nulle part en particulier. Je pensais juste que ça serait intéressant, mais je ne savais pas exactement à quoi fallait s'attendre. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait des choses qui allaient dans le sens, et en particulier ces images qu'on a vues, que je pense que vous avez vues. Alors, je vais essayer de vous les afficher parce que je les diffusais tout à l'heure sur mon Twitter. Ces images que j'ai prises à droite à gauche, il y en a qui ont été partagées par Damien Rieu, d'autres par d'autres comptes. Alors attendez, où est-ce qu'il est mon deuxième salon? Ça doit être là, voilà. Et on doit avoir la capture de fenêtre ici, qui doit être pas là. Est-ce que c'est celui-ci? Ouais, c'est celui-là, ok. Et dedans, alors par contre, je pense qu'il faut, faut que je vous mette l'audio. Ouais, il faudra que je vous mette l'audio du bureau pour que vous ayez le son. J'espère que le son n'est pas trop fort. Alors vous allez voir ces vidéos que j'ai déjà vues moi et que j'essaie de vous mettre en plein écran. Je vais vous mettre l'audio du bureau pour que vous les entendiez. Alors, on a... Ensuite, ça c'est. J'ai oublié à quel endroit c'est. Je sais que c'est un. Je sais pas si c'est pas à Creil, que c'est un maire Les Républicains qui se fait chasser, donc, juste après avoir annoncé qu'il allait lancer un recours, parce que je pense que le résultat lui convient pas, c'est peut-être un mouchoir de poche. Et on voit là, la pression qui est mise autour. Donc on n'est pas sur de la liesse, simplement de la liesse classique, hein, de gens un soir d'élection. On est quand même sur des comportements qui sont assez agressifs. On voit ici aussi. Là, c'était, je sais plus. Le type monte sur. Il y a vraiment un côté. Il y a un petit côté invasion barbare quand même. Qui rentre dans les salles et qui grimpe sur les. Alors, c'est pas. C'est pas aussi frappant que les images qu'on a du New York de Mamdani où il fait prier les gens dans les salons du 19e, mais il y a quand même un petit côté comme ça. Donc
Jean-Claude.
Et enfin, il y a cette séquence.
Au revoir, Jean-Claude.
Ah non, voilà, c'est celle-là qui a créé.
Au revoir, Jean-Claude. Au revoir, Jean-Claude.
L'ancien maire, qui était socialiste,
Jean-Claude.
Je crois, se fait bolosser comme
Jean-Claude.
Ça.
Au revoir, Jean-Claude. Au revoir.
Et intimidé, en fait.
Rappelez-vous tout le mal que vous avez fait, Jean-Claude. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jean-Claude. Non, on vous a fait une haute d'honneur. Je vous assure, vous allez sortir
non, mais
tout
madame,
tranquille.
Arrêtez de nous filmer, madame.
Au revoir. Vous êtes un personnage public encore, madame. Au revoir. Au revoir.
Alors, ce que je vous ai montré là, c'est non exhaustif, hein, puisque ça montre pas la... Je pense qu'il y en a eu d'autres ensuite qui sont sortis que j'ai pas vu à ce moment-là. Mais c'est assez dingue parce que j'ai commenté ça ensuite en disant que c'est typiquement le genre de scène révolutionnaire qu'on voit. C'est-à-dire que vous avez le peuple qui rentre comme ça, qui s'empare physiquement de lieux de pouvoir importants et qui de cette manière donc montre finalement fait preuve un petit peu d'assertivité et dans ce cadre-là je suis en train de vous chercher un extrait de film qui à mon avis vous parlera un peu parce que ça m'a évoqué ça tout de suite c'est que c'est véritablement une prise physique une prise de possession physique quoi des lieux de pouvoir et je trouve ça ouais, encore une fois c'est complètement révolutionnaire tenez je voulais trouver là j'espère que je vais pas me prendre un strike de vidéo mais normalement la vidéo étant comment dire. Elle est sur YouTube disponible, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Je vais juste vous montrer cet extrait-là. C'est la prise des Tuileries par le peuple de Paris, en fait. Je sais plus si c'est juste avant ou après la Commune, cette série, mais enfin, je vous montre ce qu'il en est. Attendez, je vous l'affiche. Je pense que. Ah, on la voit plus à nouveau. Où est-ce que je l'ai ? Attendez, alors pourquoi il me le montre pas ? Ah, et pourquoi il me le montre pas ? Attendez, on va faire OK. On va le fermer, on va le rouvrir. J'aimerais bien vous le montrer cet extrait parce que c'est quand même parlant. Voyons si je change d'onglet, peut-être que ça voudra bien le réactiver. Excusez-moi encore une fois, je suis vraiment dans l'impro ce soir, mais tout ceci a fait que. Alors j'espère que ça va pas bugger quand je change d'onglet. Voyons, tac. Si je fais ça, a priori, ouais, c'est bon. Je vais essayer de vous l'agrandir. Bon, je peux pas vous l'agrandir plus, mais en fait, c'est ça la scène. Ils sont pas venus avec les canons, mais ça passe à l'important. L'important, c'est les venus qui suivent. Ils rentrent dans le salon, et moi, ça m'évoque ça. J'espère que le son n'est pas trop fort.
Que puis-je faire pour vous, braves gens ?
Nous voulons parler au roi ! Oui !
Je vais voir s'il peut vous recevoir.
C'est ça, va lui demander, mais à genoux !
Que puis-je pour vous, messieurs ?
La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter.
Mais je vous écoute.
Oh, assez de perfidie, vous nous avez trompés, vous nous trompez encore. Mais prenez garde, parce que le peuple en a assez d'être votre jouet. Alors il vous somme de retirer votre veto.
On va pas se mater tout le film. Simplement, c'était pour vous montrer à quel point, pour moi, c'est évocateur de ce genre de scène. Et à quel point, du coup, c'est même pas une question ethnique, parce que c'est l'immigration, et donc tout de suite, effectivement, on parle des barbares à Rome, mais c'est le même genre de disruption populaire, mais en même temps, dans un cadre révolutionnaire. C'est de ça que je parle. Et c'est ça que ça évoque, c'est-à-dire c'est véritablement un changement brutal de pouvoir, et ça vous montre en fait que d'un point de vue structurel à l'intérieur du pays, malgré tout, vous aviez tout un tas d'endroits du territoire français qui étaient en fait encore contrôlés politiquement par la population autochtone. Alors, je précise que c'est la Révolution, les Années Lumière. Il y a deux épisodes, ils sont en entier sur YouTube d'ailleurs. Vous avez les Années Lumière et les Années Terribles. Et les deux sont vraiment très très bons. Je crois que c'était sorti à l'occasion du bicentenaire. C'est des films internationaux. Franchement, ils retracent bien l'histoire. Et donc, c'est véritablement ça qu'on voit, en fait. Ce sont typiquement des scènes révolutionnaires, dans le sens où c'est pas juste la tête qui change politiquement, c'est tout un système qui s'effondre. C'est la phrase de Rima Hassan, le porte-parole là, c'est fini. C'est-à-dire que vous aviez, en plus dans des endroits, vous voyez, celui qui se fait bolosser, là, c'est un vieil élu socialiste. Il est vraisemblable que cet élu socialiste, pendant des décennies, a fait du clientélisme auprès des populations immigrées, qu'il a fait venir des populations immigrées, qu'il a dû faire tout ce qu'il fallait en matière de logement social, etc., pour favoriser ça. Il a dû lutter contre le Front puis le Rassemblement National, en expliquant que c'était le racisme, que l'immigration était une chance, etc. Et donc c'était pas un raciste ou un racialiste qui tenait le pouvoir, c'était pas ça. Mais c'était quand même des gens encore qui étaient des autochtones et qui s'appuyaient, qui utilisaient cette immigration comme masse de manœuvre politique. Et désormais, on arrive à ce moment de basculement qu'on avait anticipé, hein, on en parlait dans le clivage, mais c'était évident. On est, si vous voulez, dans j'espère que vous m'entendez bien, parce que comme je suis à l'étage et qu'il y a les enfants qui dorment à côté, j'ai le réflexe de ne pas parler trop trop fort, mais sinon je monterai le volume de mon micro. On est donc dans la transcription en acte, en fait, des mots de Rima Hassan, le porte-parole là, c'est fini. C'est-à-dire que quand le porte-parole a fini, le résultat pratique, c'est ça. C'est ce que vous voyez devant vos yeux. C'est-à-dire ce renversement et cette arrivée d'une population qui, effectivement, est une population... c'est le peuple, quoi. Il faudrait que j'aie quelques trucs à balancer comme ça, mais c'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. C'est la réplique je crois que c'est La Folie des Grandeurs de Louis de Funès. Et c'est vraiment ça. Et de tout temps, en fait, le peuple révolutionnaire, le peuple des exclus, a tendance à être ce peuple-là, à être finalement... ce qu'on appelle traditionnellement la populace, quoi. C'est-à-dire le peuple dans ce qu'il a de plus vulgaire au sens du peuple, c'est-à-dire qui est une réalité aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre profondément, parce que souvent il y a des gens qui me disent mais ces gens-là, ces immigrés, on leur donne des logements, ils ont des allocations, etc., ils sont parfois mieux traités que les autochtones. En quoi sont-ils des exclus ? Vous savez, on m'a posé la question, j'ai essayé souvent de vous répondre en vous disant oui, parce que, en fait, le fait qu'une population ne se sente pas exclue, ça implique, et c'est ce qui est arrivé aux ouvriers, en fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça implique qu'il ait ses propres représentants qui viennent de sa classe sociale. Pas que les ouvriers soient représentés par des bourgeois, par exemple, que les ouvriers soient représentés par des ouvriers. Et donc ça peut être vrai sur le plan social, et ça peut être vrai aussi sur le plan ethnique. Et vous avez des gens qui se sentiront exclus parce qu'ils sont représentés ou dirigés par des gens qui ne leur ressemblent pas, et qui se sentiront moins exclus à partir du moment où ils ont des dirigeants, comme, je sais pas, Bali Bagayoko, par exemple, à Saint-Denis, qui ont la même couleur de peau qu'eux, en fait, et qui peut dire qu'il est comme eux. Et donc c'est pas du porte-parole-là. Donc c'est extrêmement important de comprendre que ça, c'était attendu, la fin de ce porte-parole-là, justement, et le fait d'en venir là, c'est-à-dire au moment où ce peuple-là génère des élites qui sont issues de lui-même, ou d'ailleurs qui sont un petit peu à cheval sur les deux, parce que quand vous y pensez encore, je pense avec David Guiraud à Roubaix, c'est encore ce truc-là, c'est encore un peu du porte-parole-là, qui de son côté est extrêmement vif, parce que pour le coup, David Guiraud, il s'est fait sa réputation aussi en montrant qu'il n'était pas comme les autres. Par exemple, on se souviendra de ses sorties à l'encontre et en public de Meir Habib. Alors, je comprends parfaitement qu'on critique Meir Habib, mais aller expliquer face aux caméras, et c'était dans les quelques mois qui suivaient le 7 octobre, que le type était un porc. Alors, encore une fois, vous pensez ce que vous voulez d'une personnage, mais ça montrait une rupture dans la bienséance parlementaire qui disait quelque chose de fondamental, et en tout cas qui envoyait un signal, un petit côté dog whistle, si vous voulez. Donc c'est ça qu'on voit véritablement. On est en train de voir ce basculement, et vous avez tout un tas de personnalités de gauche qui le payent. Et je trouve ça très intéressant de voir ça, c'est-à-dire de voir des maires justement de gauche ou autres, mais c'est plus intéressant encore, c'est encore plus parlant quand son ancien socialiste ou des socialistes qui se font dégager, parce que c'est en même temps qu'on a eu quand même cette municipale qui a posé pour la première fois véritablement, parce que c'était pas encore le cas aux législatives à ce niveau-là, mais qui a posé la question de la moralité de la possibilité morale et du droit moral pour les socialistes de s'allier à LFI. C'est-à-dire pour ceux qui représentent la gauche traditionnelle, comme ce maire-là qui se fait bolosser, par rapport à cette nouvelle gauche, hein, la gauche de la nouvelle France, c'est-à-dire celle qui n'a pas les codes finalement, qui n'est pas intégrée au système politique déjà, avec tout ce que ça implique en matière de brutalité, de brutalisation politique notamment. Et au fond, ce qui est fait à ce maire socialiste-là, c'est un peu plus directement et un peu plus fortement l'attitude, grosso modo, que les LFistes tendent à avoir en direction du Parti Socialiste. Si vous regardez les extraits qui sont ressortis cette semaine de Mélenchon disant que les socialistes c'était des combinards, qu'ils les achèteraient pour rien, etc., ce langage extrêmement méprisant, à partir du moment où c'est le chef du parti qui dit ça, qui est censé être finalement la figure la plus respectable, puisque c'est celle qui se présente à l'élection présidentielle et donc qui doit essayer de rassembler au maximum, à partir du moment où lui dit ça, c'est pas étonnant que les individus les plus bas dans la hiérarchie du mouvement fasse preuve de ce genre de comportement. Encore une fois, il y a une partie des images que l'on peut voir qui sont simplement des images de liesse électorale, mais avec une population qui n'est pas française autochtone et qui est même quasi exclusivement allogène. Donc l'image en soi peut choquer, et c'est compréhensible. Mais avec les comportements agressifs que l'on voit, là, on est quand même encore sur autre chose. Ça, je le répète, ce sont des choses que vous voyez plutôt en situation révolutionnaire. Et donc, forcément, moi, je trouve ça intéressant, parce que, en particulier, si vous mettez cette vidéo dans la perspective et dans la suite des vidéos que j'ai fait ces dernières semaines, notamment après l'affaire Quentin, sur les Antifa, sur la question de la violence d'extrême gauche, sur la question des liens avec le narcotrafic qui ressortent aussi, puisque Bali Bakayoko a été accusé d'avoir des narcotrafiquants derrière lui. Alors, je ne sais pas si c'est prouvé. Je sais aussi que la rumeur a, semble-t-il, été lancée à la base par l'élu socialiste qui gouvernait Saint-Denis depuis un moment. Or, je pense que les socialistes, en matière de complaisance et de liens un peu plus ou moins occultes avec les narcotrafiquants, n'ont pas tellement de leçons à donner en Seine-Saint-Denis. Hein. On se souviendra que, je crois que c'était Malek Bouti à l'époque qui s'était ému de ça, et d'ailleurs la gauche l'avait vite fait taire parce qu'il ne fallait pas que ça se dise trop, mais qui avait ces problèmes de compromission déjà avec les narcotrafiquants. Et donc on est dans la continuité de ça, parce que moi je vous dis, je vous ai expliqué qu'on avait déjà, je reviens pas dessus, mais qu'on avait déjà un niveau de violence politique, en fait, si on faisait bien le calcul, qui était à peu près au niveau de ce qu'on voyait, de ce qu'on a pu voir pendant, en 1934, hein, c'est-à-dire pendant la première phase de la révolution espagnole, avant la plongée dans la guerre civile, même si on a déjà eu un meurtre avec le meurtre de Quentin, mais il pourrait y avoir des meurtres de dirigeants politiques, hein, on ne sait pas. à travers justement le narcotrafic, etc., ces choses qui peuvent finir par arriver, hein, plus vite qu'on ne croit, hein, les meurtres d'élus, c'est assez classique, hein, avec les narcotrafiquants. Et maintenant, donc, alors qu'on a ces élections dont on attendait de voir ce qu'elles montreraient, eh bien, on voit ça. On voit, c'est-à-dire, typiquement, des images où, par endroit, vous avez ce bord-là qui prend le pouvoir et qui se montre extrêmement vindicatif, extrêmement violent. Encore une fois, j'insiste là-dessus quand même, hein. C'est pas un jugement moral de ma part, tout ça. Naturellement, c'est pas des images que je trouve enchanteresses. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les émotions. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution profondément technique. Je veux dire, c'est pour ça que vous venez ici. Et ben l'évolution technique. Justement, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ce n'est pas surprenant au regard de l'évolution historique normale et de la séquence révolutionnaire dans laquelle on est entré, qu'on voit ce genre de comportement de la part du peuple là où il arrive à arracher le pouvoir. Et surtout de cette partie du peuple-là, de la partie du peuple d'extrême-gauche. Parce que le peuple d'extrême-gauche fonctionne toujours comme ça. Par définition, il est exclu, il n'a pas des codes, il n'a pas les codes, il est dans des codes alternatifs, il est dans la brutalité, parce que c'est souvent, grosso modo, la seule arme qu'il a. Et donc forcément on voit ce genre de choc des mondes en fait, hein, finalement. Donc, je vous ai montré cet extrait de la Révolution parce que pour moi c'est parlant, mais ça vous montre bien que c'est quelque chose qui est lié à la violence révolutionnaire. Et c'est pour ça que j'ai commenté ça en le partageant aujourd'hui sur X, en disant, ce sont des scènes révolutionnaires qu'on voit ça. Alors c'est de la révolution à la base pour l'instant. Mais ça fait écho aussi à ce qu'a montré LFI à l'Assemblée depuis un an. Vous savez, on a souvent dit que LFI c'était la bordélisation de l'Assemblée, etc. Mais parce qu'ils font ça. C'est typique de l'extrême-gauche révolutionnaire. Elle est dans la rupture, et notamment dans la rupture de tout ce qui paraît être les règles de bienséance de politique. Alors ça amène un certain nombre de gens à commenter sur le fait de dire que c'est une autre vision de la politique, c'est pas comme chez nous, etc. Comme si, d'une certaine manière, on ramenait ça au fait que finalement on a des populations immigrées, et que donc quelque part elles importent des mœurs politiques qui sont autres chez nous. Et à mon avis, je pense que c'est une interprétation qui va être faite beaucoup, surtout à droite, parce que c'est le côté facile, parce que c'est en lien avec le problème migratoire. Vous savez, j'en parle souvent, je pense qu'il y a un problème migratoire, je ne l'écarte pas. Simplement, en l'occurrence, c'est pas ça le problème. Le problème migratoire, cet aspect de violence politique qu'on voit, c'est surtout que c'est de la violence politique d'extrême-gauche, et en réalité, on n'est plus habitué à la violence politique d'extrême-gauche en France. Il faut bien se rendre compte de ça. Enfin, on n'est plus habitué. Comme je l'ai dit, elle reparaît, mais justement, on a du mal à l'analyser pour ce qu'elle est, en fait. Mais de la véritable violence politique d'extrême-gauche, on n'en a plus connu depuis la libération, on va dire. Parce que même mai 68, je veux dire, c'était de la révolte estudiantine, ça balance des pavés, mais c'est pas, y a pas la volonté de tuer. Vous voyez, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette violence. La violence des antifas que vous voyez se déployer aujourd'hui, c'était pas ça qu'il y avait en mai 68. Pour voir de la violence comme ça, il faut remonter à minima à l'épuration, je pense. Donc pendant à la libération. Et encore vraisemblablement plus tôt. Et avant ça, le dernier épisode véritablement de violence à ce niveau-là, je pense qu'il faut revenir à la Commune de Paris. Donc c'est ça que je veux dire, hein, à propos de la violence politique qui monte, qui travaille la société. Et donc on n'est plus habitué à ça, et donc on se rend pas compte qu'effectivement il y a eu de la violence politique déjà comme ça. Et encore une fois, vous vous souvenez, s'il y a eu des fusillés à la Commune, alors je suis pas en train de vous dire que les gens, faut les fusiller, on n'en est pas là, il n'y a pas eu de meurtre, c'est des élus qui se font... Mais si vous voulez, c'est une étape. Et il est vraisemblable qu'après qu'il y ait eu ça... Ça crée des effets, et on est quand même pas très loin du lynchage, déjà. Vous savez pas à quel moment ça peut partir. Si vous avez quelqu'un qui met le premier coup, par exemple, ou qui jette un truc, est-ce que ça peut pas démarrer ? Ça peut arriver, ça. Hein, ça peut arriver. Et il y a des endroits où ça pourrait être suscité, surtout, dans le cadre où les résultats électoraux seraient différents. notamment au niveau national. Donc c'est pour ça que quand je vous disais que dans le cadre du mouvement révolutionnaire où vous auriez une arrivée au pouvoir du Rassemblement national, c'est pas impossible que la gauche et l'extrême gauche essaient d'utiliser finalement c'est les villes qu'elle a gagnées ou qu'elle tient comme des espèces de bastions de résistance en disant que ça sera pas chez eux, etc., et pour aller susciter la violence révolutionnaire. C'est véritablement pour moi quelque chose qui est possible, parce que clairement elle est dans finalement les cœurs et les esprits dans un certain nombre d'endroits. Alors pas partout, évidemment. Comme j'ai dit l'autre jour, d'ailleurs certains me sont tombés dessus, en me disant mais il est lié au narcotrafic, etc. Alors bon, pour l'instant, j'ai pas vu de preuve qu'il est personnellement lié à ça, peut-être la structure des LFI, peut-être qu'effectivement qu'il a fermé les yeux sur des trucs, qu'il est complaisant, je n'en sais rien. Mais enfin, on a vu l'intervention de Bali Bagayoko c'est sur BFM TV, et vous avez le tweet qui est dans moi, je ne vais pas le rediffuser ici, qui montrait un visage qui, pour le coup, était beaucoup plus apaisé qu'effectivement ce que cherche à jouer Mélenchon. Et notamment avec un refus d'employer l'expression racisée. Il disait « je préfère parler d'héritier de l'immigration », ce qui était effectivement déjà plus élégant. Mais alors, je me suis posé la question, le temps le dira, et je ne veux pas psychologiser à outrance, mais il y a peut-être aussi un côté qu'une fois que... Alors, j'ai pas vu maintenant de choses qu'il aurait fait avant qui auraient été agressives et qui permettraient de dire qu'il a changé de comportement, donc je ne dirais pas que c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que à mesure, vous en aurez qui pourraient être rendus... Alors, je ne dis pas que c'est tout ça. Il y en a qui pourraient être rendus, finalement, être rendus plus calmes une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire une fois qu'ils ont pris leur position politique, parce que d'une certaine manière, c'est ça qui apaise la colère. Parce que précisément, ça consiste, c'est ce que j'appelle l'intégration politique dans le cadre de l'évolution du clivage, c'est-à-dire que les nouveaux exclus, une fois qu'ils arrivent à prendre des places, mais une fois qu'ils en ont eu suffisamment, ils se sentent plus exclus, justement, parce que les membres de la catégorie savent que désormais, ils ont eux aussi des voies d'accès à peu près à égalité, ou peut-être pas totalement à égalité, mais de plus en plus à égalité avec le reste de la population. Et donc, l'impression d'avoir un plafond de verre situé très bas qui empêche de monter disparaît à partir du moment où ça calme. Donc tous ne sont pas nécessairement agressifs, évidemment. Mais je veux dire, c'est toujours le cas. Hein. La gauche espagnole, ils n'étaient pas tous avec le couteau entre les dents non plus. Lors de la gauche révolutionnaire, il y en a qui sont plus raisonnables que d'autres. Le souci, c'est celui de savoir qui va suivre qui dans le cadre d'un basculement. Et ça, c'est l'autre aspect, si vous voulez, de cette élection. C'est justement sur cette question du clivage que j'avais envie de revenir, donc en second lieu, qui est à quel point ce qu'on voit pendant ces élections municipales caractérise en fait ce qui était annoncé sur l'évolution du clivage politique. C'est-à-dire qu'on a une accélération, une poursuite, si vous voulez, de la mort du centre. Le macronisme n'aura pas du tout réussi à s'installer, contrairement à LFI d'ailleurs, parce que si vous réfléchissez, les deux sont nés à peu près en même temps, et il y en a un qui commence à avoir des victoires dans des villes, etc., et l'autre qui patine. Bon, bien sûr, il a souffert du fait qu'il était nationalement au pouvoir, mais vous sentez que ça n'a pas pris. On voit d'autres choses aussi, on voit les LR qui sortent de plus en plus affaiblis, avec parfois qui se font sortir par justement l'alternative UDR-RN, ce qu'on a vu notamment avec Ciotti à Nice. Donc on a cette évolution qui se fait de retour du clivage, en fait, parce que le retour du clivage, c'est exactement ce qu'a essayé de porter la gauche pendant ce deuxième tour, pour gagner justement avec cette histoire d'alliance antifasciste. Et on en avait parlé, bon, c'était évident, hein, quand Olivier Faure a dit la semaine dernière il n'y aura pas d'arrangement, il n'y aura pas d'alliance LFI Parti Socialiste à l'échelle nationale, tout le monde comprenait très bien que ça voulait dire que c'était open bar à l'échelle locale, puisque c'était comme il voulait. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça a été souligné pour le coup, vous avez dû entendre beaucoup de commentateurs le dire, c'est que finalement, le Parti Socialiste a surtout réussi à gagner là où il n'était pas allié avec LFI, là où il avait refusé l'alliance avec LFI, et qu'il avait plutôt perdu là où il avait accepté l'alliance avec LFI. Et donc, vous avez une tentation d'analyser ça comme ben, ça montre que les socialistes ne veulent pas d'alliance avec LFI, et par conséquent, d'une certaine manière, ça illustrerait ou ça encouragerait une forme de marginalisation d'LFI. Et je crois pas que ce soit le cas. Moi, ce qui me semble, c'est que dans les endroits où les socialistes ont décidé véritablement de faire alliance avec LFI, c'était dans les endroits où ils étaient en mauvaise position pour gagner. Ou alors là où ils étaient challenger parce que la mairie installée était de droite. Alors c'est le cas ici à Toulouse, alors je ne vais pas m'attarder sur Toulouse. Toulouse, je vous ai toujours dit, c'est très particulier. J'ai répété à qui voulait entendre pendant toute la semaine que à Toulouse, on n'aimait pas la radicalité politique. De manière générale, on a un Rassemblement National qui fait 5% au municipal. Enfin, c'est pas... Puis de toute façon, Toulouse, c'est très différent du reste de la France en général. Donc il ne faut pas chercher à comprendre comment ça se passe chez nous. Quand il y a eu la vague écolo à l'échelle nationale, ça ne s'est pas vu chez nous. Enfin bon, c'est un peu différent. Mais bon, sur la question de LFI et du PS, c'était la même chose. C'est-à-dire que le PS est arrivé troisième derrière LFI, donc le PS a cherché à soutenir LFI parce que sinon il n'avait strictement aucune chance. À Marseille, Payan a refusé l'alliance LFI, mais parce que d'une certaine manière, il a fait le coup de Mélenchon inversé. C'est-à-dire que il s'est dit que... qu'il n'avait pas besoin d'LFI pour gagner. Et vu les scores, c'était gagnable sans LFI. Donc il a tenté le coup. Puis bon, il y avait en plus qu'il s'était fait insulter pendant une bonne partie de la campagne. Mais voilà, c'était possible. Le calcul n'était pas absurde. Donc moi, je ne pense pas que ça montre un isolement d'LFI. Je pense au contraire que ça montre que dès qu'il y a un risque et qu'ils arrivent à mentionner, à suggérer suffisamment le risque fasciste, l'alliance se fait et l'alliance fonctionne. Et en tout cas, il y a suffisamment d'endroits où les socialistes ont accepté de le faire pour que ça puisse donner des leçons, notamment en cas, vous savez, d'élection présidentielle. Parce que c'est ça aussi la question qui se pose. Il y a beaucoup de gens qui ont cru pouvoir tirer de ces observations, du fait que les listes PS plus LFI ne gagnaient pas, ce qui en plus est faux, puisqu'il y a eu l'alliance technique qui a été faite autour de Johanna Roland à Nantes, donc ça, il est arrivé que ça gagne. Mais c'est surtout que, en plus, dans la plupart de ces cas, c'était même pas le Rassemblement National qui avait en face. Donc forcément, vous voyez, chez nous, par exemple, faire un front antifasciste contre Jean-Luc Moudenc, personne ne peut y croire, ça ne marche pas. Je pense que tirer des enseignements là-dessus pour un éventuel second tour Mélenchon-Bardella, je pense que c'est aller très très vite en besogne. Et au contraire, moi, je continue de penser qu'il est tout à fait plausible que, dans ce cas-là, le PS prendrait le parti de Mélenchon. J'en suis assez convaincu. Ils diraient qu'ils seront vigilants, etc. Mais jamais ils prendront le parti inverse, ni de s'abstenir face à Bardella, parce que c'est vraiment trop trop ancré dans leur logiciel que le Rassemblement National, c'est le nazisme. Et donc il vaut mieux toujours la gauche, et qu'avec la gauche, on s'arrangera. Ce qui, encore une fois, est dans la logique classique de la gauche, puisque je crois que je vous avais expliqué ça dans les émissions que j'avais fait au moment de la dissolution. Ce qui caractérise la gauche, souvent, c'est que vous avez tout un tas de gens dans les récits révolutionnaires comme ça, qui à la base sont des gens de gauche modérés, et à la fin de la Révolution, vous les trouvez impliqués dans la plupart des crimes de la Révolution, tout simplement parce qu'ils se sont laissés embarquer petit à petit à petit, parce qu'à chaque fois, ils ont eu peur que la réaction triomphe, et que finalement, c'était un mal nécessaire d'aller dans ce sens-là. Et donc, pour moi, ça, c'est le danger. Et donc, penser que le danger, finalement, Mélenchon est écarté, me paraît gros. Alors, bien sûr, l'autre information, mais ça, à la limite, c'est de la politique politicienne, je ne vais pas m'y attarder, c'est le fait que... Édouard Philippe a été sauvé des eaux... au Havre, et que donc il soit toujours, et peut-être plus que les autres, parce qu'en fait, du coup, c'est le seul qui a une forme de légitimité au centre pour être candidat. Maintenant, ça ne préjuge pas du fait qu'il arrivera à être sur le premier ou deuxième, enfin il ne sera pas premier puisque c'est le candidat RN qui sera premier, mais même à être second, c'est-à-dire à être au second tour, ça c'est pas certain. Et encore, il pourrait l'être, mais de toute façon, ce qui sera important, c'est les élections législatives surtout, parce que qui peut croire même que si Édouard Philippe arrivait à se faire élire à la Macron, hein, parce qu'il le ferait par défaut, Édouard Philippe arriverait à avoir derrière une majorité pour lui, ça paraît invraisemblable. Ça paraît invraisemblable, et puis en plus, bon, vous savez qu'on est en train d'une période curieuse avec Hormuz, tout ça, le prix du pétrole, qui font qu'il pourrait se passer beaucoup de choses dans les semaines et les mois qui viennent, politiquement notamment. Donc tout ceci promet encore, je pense, beaucoup d'agitation, et surtout cette intensification du clivage gauche-droite qui se reconstitue véritablement. Et je pense que vous aurez vu, notamment hein, dans le cadre de la reconstitution, le wokisme a strictement parlé, le wokisme et l'écologisme ont totalement disparu de cette campagne, et totalement disparu du paysage politique. Les écologistes ont été balayés partout, mais je veux dire, c'était attendu, encore une fois. C'était évident, je vous avais dit que c'était ce qui était arrivé avec les anarcho-communistes et les communistes, notamment staliniens. C'est l'idéologie qui correspond le plus aux intérêts propres de la classe d'exclus qui triomphe. Le reste, ça peut s'y attacher. Encore une fois, je rappelle que vous avez eu une forme d'écologisme aussi dans les années 1890, avec Élisée Reclus, le mouvement libertaire, etc. Mais tout ça, c'était avant l'apparition de la SFIO. Après l'apparition de la SFIO, tous ces gens-là ont disparu. C'était terminé. Cette espèce de mouvement libertaire un peu bourgeois finalement, ou moins petit bourgeois, on l'a vu réapparaître quand, à partir des années 70, c'est-à-dire quand le Parti communiste a été affaibli. Et surtout qu'en plus, faut se souvenir que le Parti communiste a connu un cordon sanitaire hein, entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, c'est-à-dire avec Mitterrand ensuite qui les a fait revenir dans le jeu, mais comme supplétif du Parti socialiste. Il y avait un cordon sanitaire, en fait, autour... D'ailleurs, c'est très intéressant, si vous regardez, il y a eu deux histoires de la 5e qui sont en miroir l'une de l'autre. Comme je l'ai déjà dit, vous avez la première partie de l'histoire de la 5e, c'est avec la milice du régime, c'est le SACS, un mouvement gaulliste, et le cordon sanitaire, il est à gauche, c'est-à-dire autour du Parti communiste, ce qui fait que la gauche ne peut pas gagner. Et ensuite, à partir des années 70, vous avez Mitterrand qui arrive à surmonter, en fait, le cordon sanitaire. Avec ça, il arrive à renverser le rapport de force à l'intérieur de la Ve République, et à partir de 1980, au moment où il arrive au pouvoir, le SAC est dissous, pour une affaire de meurtre, je vous l'ai déjà dit, meurtre de la tuerie d'Auriol. Ce sont les antifas qui vont devenir la nouvelle milice du régime, avec notamment toute la nouvelle garde, l'antiracisme, etc. Et vous avez un cordon sanitaire qui est mis de l'autre côté de l'échiquier, c'est-à-dire autour du Front National, ce qui du coup transforme la capacité de la gauche à gagner des élections à tous les niveaux, et notamment au niveau local, hein, puisque ça permet de remporter des baronnies locales et de s'installer localement très fortement. Et donc c'est ça qui s'est passé. Et donc, à mon avis, ce qui va se passer, ce qu'on va voir dans le cadre de la révolution, ça doit être encore un changement de ce type-là. Alors, normalement, vu qu'on ne sera plus un régime structurellement autoritaire, enfin pendant un moment, parce que si on rentre dans une phase révolutionnaire, ça va revenir, hein, mais en tout cas dans la phase parlementaire, normalement, il ne doit plus y avoir de milice, déjà, du pouvoir. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un retour de cordon sanitaire autour de LFI qui à nouveau favoriserait la droite et la fin du cordon sanitaire à droite? Il n'est pas brisé, le cordon sanitaire à droite, encore une fois, hein, puisque j'ai vu encore David Linard qui demande à Ciotti de se détacher de son alliance avec le RN, alors que c'est avec cette alliance que Ciotti a réussi à emporter la mairie de Nice. À mon sens, une nouvelle inversion, ça serait ça. Ça serait la... Grosso modo, il y a toujours un cordon sanitaire d'un côté, et c'est ce qui avantage un camp ou pas, ou ce qui équilibre à peu près le jeu politique. Et là, on a un renversement qui est en train de se faire sur cette question, et c'est un des autres indices, parce que malgré tout, ben, il y a des endroits où, alors encore une fois, c'est pas partout, mais il y a des endroits, encore une fois, comme à Marseille, et comme dans d'autres villes, même à Paris, malgré tout, où il y a eu ce refus des socialistes d'aller chercher l'alliance pour des raisons justement de considération morale, etc. Et ben ça, c'est peut-être un début de cordon sanitaire imposé à LFI. Pas partout, mais ça pourrait être quelque chose qui deviendrait plus durable. Mais à mon avis, si ça arrive, il faudra encore qu'LFI démontre plus de violence qu'il en a montré maintenant. Parce que pour l'instant, c'est encore trop tentant pour une bonne partie des socialistes de rester sur l'ancien logiciel, c'est-à-dire pour faire barrage au fascisme, ben, mieux vaut tout que le fascisme, et donc il faut s'allier avec Mélenchon si nécessaire. Voilà ce que j'avais à dire de prime abord sur toute cette situation. Je vais jeter un œil, on va répondre aux questions, donc je vous ai dit on va pas faire le live derrière, donc si vous étiez parti pour poser des questions suivant, reposez-les ici en taguant Hiruma afin qu'il puisse me les transmettre. Merci l'Hirumissime d'être toujours là. Alors, Stéphane Ducot, le RN a percé surtout dans le sud. Peut-on y voir un retour au parallèle dont nous avions discuté à propos du clivage et de l'homogénéisation de la France, les Armagnacs, les guerres de religion, les Gascons? Est-ce que parce que j'ai pas vu de... C'est vrai qu'ils ont remporté des villes. Je crois qu'ils ont eu quoi? Ils ont eu Carcassonne, ils ont eu Carpentras, ils ont gardé Perpignan. Ils ont quand même percé d'une certaine manière à Marseille, même s'ils n'ont pas été élus, mais enfin ils ont fait quand même des gros scores. Donc est-ce que ça peut être... Je pense que oui, que c'est une suite de ce clivage, parce que d'une certaine manière le clivage géographique qui s'était effacé sous la Troisième République et sous la Quatrième, c'était terminé, a ressurgi avec la Ve République, et notamment la façon dont le régime traite en fait l'ensemble du pays comme une espèce de colonie de Paris. Vous savez, j'avais déjà fait cette remarque qu'il y avait une espèce de détestation, bien souvent, des Parisiens, ou plus largement des citadins, qui vont acheter des biens immobiliers à la campagne pour se faire une résidence secondaire, etc. Donc on a vu des attaques sur des maisons secondaires, des résidences secondaires taguées, etc., parce que les gens sont mal vus, alors que traditionnellement c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que pour moi, jadis, quand vous étiez d'un milieu bourgeois dans une grande ville et que vous aviez une maison de campagne, c'était pas une maison de campagne que vous aviez achetée. En général, c'était une maison de famille et en fait vous veniez de là, qui venait de l'endroit d'où vous veniez, et vous étiez venu en ville pour faire une carrière, pour vous installer comme ceci ou cela, faire un métier bourgeois, mais vos origines étaient campagnardes. Et donc en fait, à ce moment-là, la maison de famille, la résidence secondaire, qui restait une résidence secondaire à la campagne, représentait l'ancrage rural, périphérique si vous voulez, des élites urbaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la résidence secondaire, souvent, c'est une maison qui a été achetée par des gens de la génération actuelle, d'ailleurs, souvent c'est des boomers, et qui n'avaient pas forcément d'attache locale. Et donc c'est perçu non pas comme l'ancrage local des élites urbaines, mais comme une colonisation en fait de l'espace périphérique par des élites urbaines qui arrivent avec le pognon qu'elles se font en ville pour finalement imposer leurs lois, parfois en râlant contre les cloches des clochers ou les coques des basses-cours ou les meuglements des vaches. Et donc qui se comportent en fait comme des colons, hein. C'est véritablement ça le truc. Et je pense que c'est effectivement d'autant plus fort dans le sud de la France, en fait. Ça doit être globalement encore plus mal vécu, parce que traditionnellement, on a une distance à Paris qui est un petit peu différente, et puis malgré tout, ça reste. Hein. Alors, c'est particulièrement vrai, selon moi, à Toulouse. Je rappelle toujours qu'on est quand même l'endroit qui a été conquis militairement en France. Il y a très peu de parties du territoire de la France qui ont été conquis quasiment purement militairement et colonisées. Ça a été le cas de mon sud. Donc il y a un... ça peut être en tout cas une renaissance de ce clivage-là qui est liée au fait que on a retrouvé une structure du pouvoir qui est impériale à l'intérieur du pays et qui donc centralise notamment les ressources et ce qui entraîne justement une révolte de la France périphérique. En fait, c'est la France périphérique qui proteste. Le RN, c'est le parti des actifs et de la France périphérique, et c'est souvent les deux à la fois, puisque c'est eux qui nourrissent aussi les grandes villes, hein, tout l'argent qui est dépensé dans le social dans les grandes villes. J'ai partagé tout à l'heure une infographie qui a été publiée par Nicolas Kipay. J'essaie de vous la retrouver. J'essaie de vous l'afficher. Elle est là. Tac, tac. Je vais vous le mettre. Voilà. Est-ce qu'on le voit ? Oui. Voilà, il va s'afficher. Voilà. Pourquoi l'électeur de gauche parisien profite-t-il 10 fois plus des dépenses publiques de l'État que l'électeur de droite de l'Ain ? Voilà. Souvent, vous avez les gens qui vous disent c'est Paris qui paye. Oui, mais c'est aussi Paris qui centralise les ressources en grande partie. Et vous avez une bonne partie de l'argent qui est payé par les Parisiens et par le travail qui se fait à Paris, qui vient aussi des ressources en fait qui sont centralisées. C'est un petit peu comme en Russie avec Moscou. Hein. C'est assez typiquement ce genre de capital qui vampirise le reste du territoire. Et donc, le Rassemblement National, c'est le parti à la fois des actifs et de la France périphérique, qui correspond un peu aux actifs, mais dans l'ordre géographique. Et donc c'est pas surprenant que le sud, qui est peut-être encore plus périphérique que le nord, hein, c'est la carte des traites de Louis XIV, c'est les provinces réputées étrangères, je vous la remets parce que celle-ci elle me plaît toujours. Voilà, c'est là. J'adore cette carte. Elle dit tellement de choses. Elle dit tellement de choses. C'est ça, quoi. C'est les provinces réputées étrangères, toujours, qui souffrent et qui veulent voter donc dans ce sens. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, qu'avons-nous ? Un don de GT, merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous dites le camarade Boudenkov pour nommer le maire de Toulouse? Alors c'est une blague familiale qu'on sort dans ma fratrie, je crois que c'est moi qui ai dû sortir ça la première fois. Je sais plus, c'est parce que j'avais l'impression que je le voyais depuis des années, parce qu'il était déjà là sous Dominique Baudis avant de revenir, de reprendre la mairie à Cohen, etc. Et donc ça, il y a un côté pour moi dirigeant soviétique qui est là depuis, voilà. En plus il a un peu un physique de dirigeant soviétique maintenant, un peu replé avec les cheveux gris et tout. Voilà, c'est on a pris l'habitude. Alors à la base c'était parce qu'il nous des fois il nous fatiguait un peu, et puis à la fin c'est par affection, parce que ça fait 2 fois qu'il évite que l'extrême gauche arrive au pouvoir, parce que la dernière fois aussi c'était l'extrême gauche, et voilà. Le chroniqueur Fabrique, il compare le lumpen prolétariat aux révolutionnaires. Oui, mais c'est pas faux. Hein. De toute façon, le lumpen prolétariat, il est pas toujours et pas nécessairement contre-révolutionnaire. Il peut être parfois utilisé, notamment pour casser les, pour pourrir les mouvements sociaux, par exemple. Mais en période révolutionnaire, le lumpen prolétariat peut aussi avoir un rôle révolutionnaire. Mais ce qu'on voit là dans ces mairies, c'est pas forcément du lumpen prolétariat d'ailleurs, hein, c'est peut-être juste du prolétariat. Personne ne vous dit qu'ils travaillent pas, tous ces gens qui manifestent autour et qui vont vilipender vous n'en savez rien. Alors vous allez me dire, ils doivent toucher les aides de la CAF, beaucoup, oui, parce que à ce niveau de revenu, les gens touchent beaucoup d'aides de la CAF, mais ça n'empêche pas aussi que ces gens qui peuvent travailler. Donc c'est pas forcément du lumpen. Je ne vous ai pas parlé de lumpen prolétariat ce soir d'ailleurs. J'avais parlé de lumpen prolétariat de la part de ceux qui avaient cassé pendant les émeutes de Naël. Et qui sont pas forcément les mêmes. Hein. C'est pas parce que vous allez dire, si vous dites oui, mais ils ont la même couleur de peau, c'est un peu court comme raisonnement d'après moi. Je suis d'accord, ça mériterait d'être plus travaillé pour être sûr de. Mais enfin, en même temps, comment vous voulez aller vérifier que les gens que vous voyez gueuler comme ça n'étaient pas dans des émeutes, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de raison de partir du principe inverse. Un autre nom de JT, merci beaucoup. Bali Bagayoko ne ferait-il pas meilleur candidat à la présidentielle que Mélenchon? Il me semble moins antipathique. Oui, il a l'air moins antipathique. Le problème, c'est que Mélenchon, il veut se faire élire aussi parce que son idée, c'est, en tout cas ceux qui le soutiennent, lui, je crois qu'il s'en fout, lui, il veut transformer la France en un gigantesque Casablanca de sa jeunesse, donc c'est pas son truc. Mais les gens qui votent pour Mélenchon sont des gens qui veulent, qui sont des petits blancs, je le rappelle, enfin, à part les immigrés, les autres sont des petits blancs, des bourgeois, des petits bourgeois blancs, c'est ça que je veux dire, qui veulent utiliser les immigrés comme masse de manœuvre pour voler les places, justement pour prendre les places de direction à toutes les vieilles générations de boomers socialistes, comme celui qui se fait invectiver dans la vidéo que j'ai montré plus tôt. Je suis pas sûr que ces gens-là voteraient pour Bali Bagayoko. Parce qu'en élisant un vieux mâle blanc comme Mélenchon, ils peuvent penser que derrière, en tant que petit bourgeois blanc, ils auront des postes. Je pense que Bali Bagayoko, c'est trop fin du porte-parole-là, et les mecs sentiraient très bien qu'ils n'auraient pas les places, que les places, elles n'iraient pas à eux après. Donc, meilleur candidat à la présidentielle, si ce qu'on veut, c'est avoir une figure moins conflictuelle, probablement, mais politiquement, ça ne marcherait pas. Merci pour FDK Texas pour son don, c'est très gentil. Et de manière générale, d'ailleurs, c'est le moment de vous rappeler que il faut pousser, il faut mettre des pouces sous les vidéos. Il y en a combien, je sais pas. Là, j'en vois que 17 affichés alors que vous êtes plus de 500. À mon avis, c'est une erreur. C'est un bug, ça a pas dû s'actualiser. Si je regarde, non, il y en a 146. 146, je pense qu'on peut aller jusqu'à 200 quand même. 250, un truc comme ça. Bon, au moins la moitié, vous voyez, en général, c'est la moitié. Et n'hésitez pas à nous soutenir, notamment. Vous pouvez, je vous rappelle, vous avez accès à des contenus supplémentaires sur la chaîne. Mais si vous voulez pas accéder à ces contenus ou que vous pouvez aider qu'une fois de temps en temps, nous payer un petit café ou un petit coca, ben vous pouvez aller sur Tipeee et même donner 1 euro. Si vous étiez nombreux à donner 1 euro, ben à la fin, ça fait, si vous êtes 10, ça fait 10 euros. Voilà, ça permet de payer 3 coca. Et ça m'aide à diffuser l'histoire, notamment quand je dois, comme ce week-end, aller à Paris pour sur mes deniers, parce que je ne suis pas payé pour ces interventions médias. Pour intervenir, notamment, j'ai donné un petit éclairage sur la guerre en Iran, comme je l'ai fait sur chez Mathieu Boccoté. Probablement que je referai une émission d'ailleurs sur l'Iran où je développerai un peu tout ça, parce que j'ai dû aller vite au début, mais je pense que c'est intéressant sur le plan historique ce que j'ai dit sur le fait que, en fait, la guerre a commencé il y a quelques années. Mais bon, je ne vais pas en reparler maintenant. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à soutenir, partager et le dire aux copains si ça vous intéresse. Et encore une fois, les pouces. Bien. GT, encore une troisième fois, Jean-Robin a raison, le PCF a gagné à Montreuil. Ah, mais est-ce que c'était un chinois? Est-ce que c'est du PCF chinois? Ah, il y a une petite citation de Gabriel Attal que met Hiruma. Alors, est-ce que Gabriel Attal vous a pas paru bizarre en vidéo hier? Je sais pas si je peux vous la retrouver, cette vidéo. Moi, il a quand même... alors, je sais pas s'il était malade ou s'il était... Ou s'il était un peu chargé, comment dire, je sais pas où est la vidéo, dans le Telegram, mais il avait l'air, il avait le teint pâle, alors je sais pas s'il met du mascara, il est assez bizarre, j'ai trouvé, il est plus fariné qu'une croûte de banette, a dit la personne qui en parlait dans la... Attendez, je vous le montre. Tac, vous allez voir là. C'est vrai que le gars a quand même le teint... je veux dire, le mec, il transpire. Alors, c'est peut-être les projos, mais enfin... Parce quand vous regardez ses yeux, mal rasé et tout, il avait l'air explosax, quoi. Alors qu'en plus, il se présentait pas, lui, personnellement, donc il a pas de raison d'être épuisé à 10h ou 11h du soir le dimanche. C'était assez curieux. Attendez, Bref, alors pendant ce temps-là, je vais lire ce que l'ami Rouma m'a envoyé comme message. Gabriel Attal a dit: ce soir, nous doublons notre nombre d'élus locaux. 200 maires Renaissance ont été élus partout sur le territoire, à Nevers, à Bayonne, à Tarbes, à Rodez, partout en France. Nous progressons et renforçons notre implantation locale. Ah, d'accord, pour la première fois de notre histoire, Renaissance va diriger une ville de plus de 100 000 habitants. Toutes mes félicitations à Antoine Armand qui l'emporte à Annecy. Ouais, c'est possible que qui commence à s'implanter localement. Alors ça serait pas absurde en même temps, parce que ce qu'il y a, c'est que je pense que est-ce qu'il y a eu des faudrait poser la question, est-ce qu'il y a eu des maires MoDem qui ont été élus? Parce que en fait il y a toujours eu des maires centristes, donc c'est pas, donc si c'est juste une substitution, si vous voulez, de Renaissance au MoDem, alors qu'il y avait déjà une proximité assez importante, moi je pense que la réalité c'est que c'est un changement d'étiquette pour beaucoup de gens, quoi. Alors pas à Tarbes, c'était une mairie LR de mémoire. Sur, aux autres endroits je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais en tout cas voilà, on a un parti de gouvernement, je veux dire, avoir un parti de gouvernement qui cherche à s'implanter localement et dont c'était pas le cas, c'est quand même assez nouveau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Léonde ou Léon II, je sais pas quoi. En toute logique, après une révolution, il y a une purge dans le peuple. Qu'en sera-t-il après la future révolution? Ben, c'est possible. Et c'est possible notamment qu'il y ait une purge partiellement ethnique. Ça, je l'ai déjà eu dit. Mais notamment à l'échelle européenne, en plus, dans le cadre de la révolution à l'échelle européenne. Ça, c'est possible. Donc ça peut être notamment, de toute façon, s'il y a une faillite et qu'il y a... Parce que je rappelle qu'il y a des gros problèmes économiques en général pendant les révolutions. Il peut y avoir un défaut sur la dette, etc. Dans ce cas-là, vous avez tout un tas de services sociaux qui ne sont plus payés. Vous avez tout un tas de gens qui retourneront là où ils ont des solidarités familiales, notamment en Afrique. Donc vous pouvez avoir effectivement un retour qui n'est même pas forcément une remigration ou un truc politiquement décidé, mais qui peut être juste que les gens qui sont arrivés récemment pour chercher une vie meilleure, et la vie meilleure c'est un pays en plein collapsus révolutionnaire, bah, ils s'en vont, je pense. La bête du Gévaudan, pensez-vous que Juan Branco va jouer les troubles faits au présidentiel? Quel sera son rôle dans les événements à venir? Oh, ça c'est très difficile de prévoir personnellement. Je vois le genre de rôle que lui veut jouer, effectivement, cette espèce de Mussolini, mais je ne dis pas s'il va y arriver. Ah oui, Rouma me dit de dire qu'on ne prend que les questions des maîtres et aussi en don. Ah oui, parce que normalement le live est, oui, c'est réservé aux maîtres. Ouais, mais ce soir c'est un peu là, hein, tu l'as vu, c'est un peu la fête. Tenvalael, qu'est-ce qui fait que la gauche prend le pouvoir et impose la terreur dans certains cas, 1789, et pas dans d'autres révolutions allemandes? Alors, ce qui fait ça, à mon avis, c'est que la gauche prend le pouvoir quand on parle de pays qui font leur révolution alors qu'ils n'ont jamais connu de réforme libérale avant ça. Si vous regardez, parce que ce qui est très, très intéressant, c'est que dans les années 1920, à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez l'essentiel de l'Europe qui a fait sa révolution nationale, donc à l'échelle nationale, individuellement, simultanément. C'est-à-dire que vous avez une révolution nationale en Espagne, que vous connaissez à partir de 1931, vous avez en Russie, vous avez en Allemagne, vous avez en Italie, vous avez en Pologne, vous avez en Hongrie, vous avez en Autriche, mais enfin l'Autriche s'est vite englobée dans l'Allemagne, mais enfin, c'est la même chose. Et tous ces endroits-là, donc tous font leur révolution nationale en même temps. Et si vous regardez, il y en a une partie où c'est le fascisme qui va gagner, donc ce qu'on dirait la droite, qui est en soi une réaction au bolchevisme, et une autre partie où le bolchevisme gagne. Et en fait, vous vous rendez compte que le bolchevisme va gagner dans l'espace européen dans lequel il n'y avait pas eu de pré-révolution, entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y avait pas eu les réformes libérales résultant de la Révolution française qui s'était répandue par la force à l'occasion des guerres de la Révolution et de l'Empire. Et dans ces pays-là, même s'ils n'avaient pas fait leur révolution nationale avant 1918, en gros, un certain nombre de révolutions qui étaient issues de la Révolution française avaient été mises en place. L'abolition de la société d'ordre, certaines choses comme le respect du droit de propriété, parfois certaines libertés de la presse, etc. Et dans ces circonstances-là, les bolcheviks étaient très dangereux, parce qu'en fait, c'était des révolutionnaires type révolutionnaires de 1789, qui avaient donc un message radical de table rase, qui, en fait, était en partie contradictoire avec les intérêts des populations, puisqu'elles avaient déjà obtenu un certain nombre de cette avancée. Et donc, ces populations ont suscité une réaction qui n'est pas une réaction élitiste. Le fascisme, c'est pas une réaction des élites, de l'ancien régime qui cherche à se maintenir. C'est pas réactionnaire. C'est aussi révolutionnaire. Mais c'est révolutionnaire en disant « mais on va pas perdre les acquis libéraux qu'on a déjà. » C'est-à-dire notre propriété, notre liberté d'expression, etc. Et c'est en ce sens-là que le fascisme, parfois vu, était vu et même préféré par les libéraux au bolchevisme, parce que c'était vu comme une manière de se protéger par la force de quelque chose qui était encore plus dangereux. Alors que dans les endroits où il n'y avait jamais eu de réforme libérale, où le servage a existé très très tard, comme en Russie, eh bien le bolchevisme, il n'y avait rien pour s'y faire comme obstacle. C'était avantageux pour l'essentiel de la population, parce qu'il n'y avait pas de population, ou pas suffisamment de population, qui bénéficiait déjà de réformes libérales intervenues. Donc pour moi, c'est ça qui fait le distinguo. Et si vous regardez la carte, vous apercevez que là où la Révolution française avait réussi à s'étendre, eh bien, vous avez eu ensuite du fascisme. Alors que là où la Révolution n'était pas arrivée, vous avez eu effectivement le bolchevisme qui a réussi et qui n'a pas rencontré de limites à travers un fascisme suffisamment structuré, parce que ce fascisme-là n'avait pas d'appui populaire suffisant. Hervé, est-ce que le résultat des élections municipales sont au niveau de tes attentes dans le cadre de la Révolution nationale ? Alors, j'avais pas vraiment d'attentes dans le cadre de la Révolution nationale. J'attendais de voir s'il y avait des endroits où la gauche gagnait de manière un peu violente et qu'on aurait l'équivalent de mini-commune, ou que ça inverserait du rapport politique. Sur la question du rapport politique à l'échelle nationale, j'attends encore de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même vu une belle poussée du Rassemblement national, ce qui est... Désormais, c'est souligné par tout le monde, en fait, par tous les commentateurs, le clivage géographique, l'existence des grandes villes, et des grandes villes intramuros même, contre le reste de la population. Et ça explique notamment pourquoi il est impossible au Rassemblement national de remporter des grandes villes. C'est à cause de ce clivage, en fait, parce que vous ne pouvez pas à la fois être le représentant de la France périphérique et remporter les cœurs de grandes villes. C'est un peu antinomique. Mais ça montre aussi toute la force territoriale du Rassemblement national en vue de l'évolution parlementaire du régime, et notamment lors des sénatoriales, des prochaines sénatoriales. Le fait d'avoir gagné beaucoup d'élus locaux, ça permettra de multiplier, alors probablement pas dans les mêmes proportions que lors des deux dernières législatives à l'Assemblée nationale, mais ça permettra de donner une assise et de faire une poussée, et ça pourrait amener les Républicains peut-être à repenser les choses. Enfin, en tout cas, il va y avoir des élections, des évolutions intéressantes dans ce sens-là, d'après moi. Florent Borélis, les nouveaux exclus vont-ils s'en prendre aux boomers qui s'accaparent les ressources de l'État ? C'est tout à fait vraisemblable, je pense. Ça va être le prochain. Et de toute façon, je renvoie à ce que j'avais dit, il y a un peu plus de 6 mois, ou presque un an. C'était au moment de la sortie de Nicolas Kippé. Je vous avais dit que d'après moi, alors je ne sais plus est-ce que je peux retrouver mon vieux tweet avec mon vieux schéma. Vous savez, je vous avais dit que au cours de la Révolution, on assisterait à une évolution du clivage progressive avec d'abord... Ah, mais ça, je l'ai retrouvé. On va reprendre ce tweet, du coup. Je vous disais ceci. Comment je type cette évolution du clivage du rang ? En bleu, phase 1, les actifs français. Nicolas s'appuie sur la Nouvelle-France pour arracher la fin des privilèges des boomers à la restructuration du régime. En rouge, phase 2, les actifs français désormais maîtres du système s'appuieront sur les boomers déclassés pour éviter les dérives gauchistes, genre l'argent pris aux retraités doit être versé aux immigrés, classe populaire d'origine immigrée. Voilà, obligé de caricaturer pour être bref. Mais c'est ça, à mon avis, l'évolution du clivage qui va se faire. C'est en partie déjà vrai parce que, d'une certaine manière, et que vous le vouliez ou non, vous avez quelques Nicolas 30 ans dans l'électorat de Mélenchon, d'ailleurs. Ce sont juste... C'est parce que ces petits bourgeois blancs, je vous disais, qui veulent les places, d'une certaine manière, pour certains, c'est des Nicolas. C'est des gens qui travaillent, qui paient des impôts. Hein, il y en a. On ne peut pas dire le contraire. C'est peut-être pas la majorité de ce qu'on appelle les Nicolas. Encore que, il faudrait faire des études là-dessus. Surtout si vous étendez Nicolas aux actifs en général, naturellement, et où là vous avez plus des bourgeois urbains, et donc forcément c'est pas ça. Mais le Nicolas en tant qu'il est bourgeois urbain, vous en avez probablement la moitié qui sont des gens qui votent Mélenchon. Hein. Avec toute l'idée, je rappelle, il y avait, ils n'ont pas trop insisté là-dessus, alors que c'était quand même, enfin à mon avis, c'était le meilleur moyen de pousser. Les HLFI, ils n'ont pas encore compris que, qu'une des choses qui leur pesait politiquement, alors je ne veux pas leur donner de bonnes idées, mais qu'une des choses qui leur pesait politiquement, c'est de passer pour des sales rouges, et donc pour des communistes. Alors que c'est plus vraiment ça, économiquement en tout cas. Il y a toujours des idées d'aller piquer l'argent des riches, hein, il n'y a pas de souci, mais leur multiplication, vous savez, en plus c'était là qu'il y avait une erreur de communication, parce qu'ils disaient au lieu d'avoir, je sais plus, 4 ou 5 tranches d'impôt sur le revenu, il y en aura 14. Alors tout de suite, vous vous dites, oh, il y aura 14, putain, on va se faire tabasser. Alors qu'en réalité, par définition, si vous multipliez les tranches d'impôt sur l'imposition sur le revenu, ça ne veut pas dire que vous allez multiplier l'imposition sur le revenu. Au contraire, si vous créez des tranches intermédiaires et que ça évite à quelqu'un, plutôt que de sauter d'une tranche très lourde, qui est trois gradations de tranches et que donc il en franchisse qu'une ou deux, et donc il n'arrive pas jusqu'à la troisième, normalement il y gagne un impôt. Et le fait qu'ils avaient fait des calculateurs en disant qu'il y a 90% des Français qui en profiteront. Et donc dans ces Français-là, il y a des Nicolas, ce qui vous explique qu'il y a aussi des jeunes actifs qui peuvent voter Mélenchon, en pensant que financièrement c'est intéressant pour eux. Surtout dans le cadre social qu'on connaît actuellement, qui est que les zoomers ont un pouvoir d'achat au même âge, qui est... C'est quoi le chiffre qu'il donnait ce youtubeur l'autre jour ? Qui vient d'une étude faite aux États-Unis, je crois, alors c'est passé pareil en France, en fait, qui est 86% inférieur, je crois, aux boomers au même âge, notamment à cause du logement, terrible. Donc vous pouvez avoir une alliance sur, et même d'une partie donc de la droite ou de la droite RN, surtout si le RN éclate en deux, hein, avec d'un côté les Nicolas, parce que, rappelons, hein, le RN c'est à la fois le parti des vieux ouvriers, boomers, anciens communistes qui votent parce qu'ils veulent pas d'immigrés, et je la fais très, très courte et caricaturée, mais pour comprendre, et de l'autre côté, des jeunes zoomers qui en ont marre de l'immigration mais qui veulent qu'on arrête de leur prendre de l'argent pour les boomers. Voilà, les zoomers et les millennials, si vous voulez. Et donc, vous auriez une moitié du Rassemblement National qui pourrait s'allier avec les électeurs Mélenchon sur le fait de baisser les retraites, par exemple, ou de suspendre, ou de faire des trucs comme ça. Ça pourrait arriver. Pas pour les mêmes raisons, hein. Tu veux baisser les retraites des boomers parce que tu veux les donner aux immigrés, je veux les baisser parce que je veux qu'ils arrêtent de me prendre mon argent, nous ne sommes pas les mêmes. Il peut y avoir ce genre de choses, mettons. Mais en tout cas, voilà comment je verrais l'évolution de ce clivage. Et comment ça s'articulerait avec la problématique fondamentale, à mon sens, des retraites. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont s'en prendre aux boomers ? Logiquement, dans cette configuration-là, oui. Hervé, est-ce que Macron est tranquille jusqu'à juin, donc jusqu'à mai 2027 ? Alors, honnêtement, sur les 2-3 mois qui viennent, je ferai aucun pari. À la fois en raison de l'Iran, en raison des choses inquiétantes qu'on voit autour des pays baltes, tout ça. Voilà. Je dis pas que c'est sûr que, je dis que, au regard passé de ce que j'ai dit, j'ai les raisons de penser que, vous savez, je vous ai souvent dit que ça pourrait venir de la... qu'il fallait compter la pression de la guerre sur la trajectoire propre de la France. Et bon, là-dessus, il peut se passer des choses, quoi. Donc tant qu'on n'est pas arrivé en juin et qu'il n'y a rien eu, je n'oserai pas affirmer dans ce sens-là. Je tendrais même à penser le contraire, mais bon. Hervé, encore une fois, peut-on avoir une dissolution bientôt en cas de loi réactificative budgétaire? Si oui, quand? Ça, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il devrait la faire. Pour l'instant, je pense que je sais pas s'il y aura besoin. L'augmentation des prix du pétrole, ça fait un peu une manne pour l'État qui gagne de l'argent en plus et qui a refusé de baisser les taxes pour équilibrer. Donc, ça doit déjà aider à équilibrer. Donc, je sais pas. Après, est-ce que Emmanuel Macron ne peut pas tenter, comme il est dans une dynamique dans laquelle, vous savez, il remplace les gens. Il fait des nominations pour verrouiller, on dit. Est-ce qu'il serait pas cap de faire une dissolution un an avant l'élection présidentielle pour essayer de lier les mains de son successeur de la même manière qu'avec les nominations? Il est capable de tout, hein, on ne sait pas, mais ça lui ressemblerait. Florent, membre depuis 6 mois, et merci d'être là. Que pensez l'alliance gagnante PS Centre Droit à Strasbourg? S'agit-il d'une tentative de nouveau bloc central par le bas? Ben, c'est possible. Je pense qu'il y a plein de tentatives qui se font un petit peu partout et que ça dépend. Et en fait, c'est ça la recomposition du clivage. C'est-à-dire que vous avez des gens qui testent des trucs à des endroits, grosso modo, et on va voir les choses se reformer. Alors, on verra probablement des absurdités par endroit de temps en temps. Et à la fin, vous avez tout le monde qui se replace. Voilà, c'est une espèce de jeu de chaises musicales qui se replace dans le spectre en fonction de son réel placement par rapport à l'ensemble des problématiques et dans l'ordre de leurs priorités. Parce que je vous rappelle que j'ai eu l'occasion de l'expliquer dernièrement, je ne sais plus si c'était dans un live privé ou publiquement, mais le clivage a plusieurs degrés, plusieurs priorités. Et ce qui fait le clivage, et qu'à tel moment on dira que vous êtes de droite ou de gauche, c'est une question qui est prioritaire sur toutes les autres. La question prioritaire en France aujourd'hui, dans une bonne partie de l'Occident, c'est l'immigration. Si vous êtes pour l'immigration, vous êtes de gauche. Si vous êtes contre l'immigration, vous êtes de droite. Et cela, quelles que soient vos considérations sur le reste. Ce qui va vous déterminer, c'est que vous êtes de gauche ou de droite en fonction de l'immigration. Si vous êtes de droite sur absolument tout, mais que vous êtes immigrationniste, vous êtes de gauche. Si vous êtes de gauche sur absolument tous les sujets, mais que sur l'immigration, vous pensez qu'il y en a trop et qu'il faut arrêter, vous êtes de droite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, derrière ça, ensuite, il y a une sorte de sous-catégorisation qui fait que vous vous placez en fonction des autres priorités et de manière échelonnée, si vous voulez. Et donc, vous avez des gens qui sont pro-immigration, donc ils sont à gauche, mais ils sont plus ou moins à gauche en fonction de tout le reste, de toutes les autres considérations, justement. Et à droite, c'est pareil. À droite, vous avez des gens contre l'immigration, mais plus ou moins à gauche, en fonction ou plus ou moins à droite, en fonction de questions sociétales, etc. Et le fait est que, d'après moi, sur la question boomer, par exemple, comme je vous l'ai dit, je pense que les boomers, progressivement, vont glisser de plus en plus vers la droite et comme réactionnaires, parce qu'ils vont être déclassés du fait de la baisse des retraites. Les Nicolas vont se recentrer parce que eux, c'est les nouveaux justement qui arrachent le pouvoir aux boomers, donc ils sont plus à gauche qu'eux. Et ensuite, à la gauche de la gauche, à la gauche, vous aurez toujours les immigrationnistes qui eux vont se recomposer aussi. Mais vous aurez donc une partie socialiste qui vont se retrouver plutôt à droite conservateur, voire qui vont glisser avec les retraités. Hein, vous aurez des retraités socialistes qui se retrouveront déclassés. Hein, il suffira qu'ils ne soient pas pro-immigration, ils seront complètement déclassés, donc ils se retrouveront réactionnaires. Donc on va voir beaucoup de gens qui vont bouger dans les deux sens comme ça. Hein, c'est le même des deux voitures qui se croisent comme ça. Et ça va probablement donner lieu à des choses assez insolites. Mais le mouvement de fond, fondamentalement, c'est ça. Et c'est normal, on est en pleine recomposition du clivage. Docteur Sherlock, comment peut-on interpréter la victoire de Moudenc à Toulouse? Est-ce que LFI devient un repoussoir même à gauche? Alors, je l'ai déjà dit, hein, je pense moi qu'on n'aime pas la radicalité politique par chez nous. Si vous regardez Moudenc, en fait, il a été... c'est assez un calque de l'élection précédente, c'est-à-dire que au premier tour, de toute façon, au premier tour déjà, vous avez toujours une illusion que la gauche est plus forte qu'elle n'est en réalité, à Toulouse. Parce que vous avez toute la bourgeoisie de droite qui va pas voter au premier tour. Voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer. Ils vont juste, hop, mettre leur bulletin dans l'urne au deuxième tour. Ils savent qu'il y aura le candidat Moudenc ou un autre, à l'époque c'était Baudis. Et donc, à la fin, le type est élu finalement. Il avait 5 points de retard au premier tour. Il en aura 6 d'avance à la fin. Parce qu'en réalité, la gauche fait le plein des voix au premier tour. Et au deuxième tour, la droite qui n'allait pas voter, les conservateurs, truc, vont voter et là c'est terminé. Surtout que cette fois-ci, il y a eu une grosse mobilisation. Mais c'était même pas tellement la question LFI, la peur de LFI antisémite, etc. Ce qui a joué, c'est la peur du portefeuille. C'est-à-dire la peur qu'il soit très hostile à Airbus. Alors je sais même pas dans quelle mesure, parce qu'honnêtement, j'ai pas lu son programme. Je sais même pas s'ils avaient prévu quelque chose là-dessus. Mais en tout cas, Moudenc a réussi à très très bien vendre ça. Mais semble-t-il que les organisations patronales locales s'en sont émues, donc, alors que c'est pas le cas d'habitude. Donc je pense que c'est le cas. Et à Toulouse, ça fait partie de l'identité. Et je veux dire, c'est ce qui a fait la prospérité de la ville depuis 50 ans. Hein. Il faut bien se rendre compte. Toulouse, on était une ville qui était riche à la fin du Moyen-Âge, avec le pastel, tout ça. Et puis ensuite, on est une ville qui s'est considérablement appauvrie, qui était une ville très pauvre. Au 19e siècle, là, vous avez Stendhal qui fait des récits de voyage où il vient à Toulouse, il trouve ça, il dit que c'est dégueulasse. Déjà, Toulouse était blanche à l'époque parce que tous les murs étaient passés à la chaux. Enfin, c'était vraiment très très pauvre Toulouse. Et Toulouse a recommencé à se. Parce qu'il n'y avait pas d'industrie. Il n'y a pas eu d'industrie à Toulouse, il n'y avait pas de. Les quelques gisements de charbon que vous aviez, c'était dans l'Aveyron, à Carmo, tout ça, mais ici, il n'y en avait pas. Donc, il n'y a pas eu d'industrie à Toulouse. Toulouse ne s'est pas industrialisée. En revanche, à Toulouse, ici, on a inventé les avions. Hein, vous aviez Clément Ader, Muret. Donc, on avait cette tradition-là. Et cette tradition-là, elle s'est mise à payer tout d'un coup avec le déploiement de l'aéronautique, parce que du coup, les mecs, ils étaient ici. Et donc, à ce moment-là, vous avez l'industrie aéronautique qui s'est installée à Toulouse et qui a fait la richesse de la ville. Donc, c'est comme si vous aviez demandé à Marne-la-Vallée de d'élire un maire anti-Disney, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Vous dites, les emplois sont là. Vous pouvez pas voter contre la structure économique d'une ville. Ce n'est pas possible. Et donc... Alors, soit l'erreur de LFI est d'avoir été agressif là-dessus, mais encore une fois, je me rends pas compte, soit le coup de génie de Moudenc a été de faire croire que ça mettait en péril, mais je pense que c'est le cas, puisque, encore une fois, les organismes patronaux sont montés au créneau, même des syndicats, je crois, d'ailleurs, du milieu, sur cette question-là. Mais donc, il faut vraiment comprendre ça dans l'histoire de Toulouse. C'est notre industrie à nous. On a de l'industrie ici à Toulouse avec ça. Sinon, effectivement, l'économie de la ville s'effondrerait, quoi, parce que c'est le secteur, encore une fois, qui nourrit tout le reste. Alors, on a bien sûr aussi, on est aussi une ville étudiante, tout ça, mais ça vient ensuite, quoi. Axel, que vous inspire le contraste des votes entre Toulouse et son voisinage proche, victoire RN UDR à Castres, Montauban et Moissac? Eh bien parce que pour le coup, Castres, Montauban, Moissac, c'est pas des endroits qui bénéficient du même dynamisme que Toulouse. Toulouse, en réalité, vampirise énormément toute la région, il faut se rendre compte. Alors vampirise pas en allant prélever l'argent, si vous voulez, mais en matière d'emploi, je veux dire, il y a tout un tas de gens qui viennent justement de ces endroits-là, de Castres, Montauban, de Moissac, pour venir travailler à Toulouse parce que l'argent est plus à Toulouse. Et donc il y a un déclassement relatif de ces villes qui sont des endroits très jolis, en plus, hein, qui étaient des chefs-lieux et importants. Castres, Montauban surtout, moi ça que je connais moins, mais c'est vraiment beau. En plus, franchement, si vous avez l'occasion d'aller au centre-ville de Montauban, visitez-le, c'est très très beau. Les petites rues, c'est en hauteur, il y a des places magnifiques. Castres aussi, c'est très très joli. Et il y a Musée Goya qui est très chouette à Castres. Mais ce sont des endroits, effectivement, qui pâtissent du fait que tout est attiré à Toulouse. Et donc, ce sont des endroits qui vieillissent alors que Toulouse rajeunit. Toulouse est une des villes, je crois que c'est la deuxième ville la plus jeune de France en raison de son nombre important. Je crois que la moitié de la population a moins de 30 ans à Toulouse. Donc c'est extrêmement dynamique, mais c'est aussi parce que la jeunesse de ces endroits-là est, est aspirée. Donc Castres, Montauban, peut-être surtout plus Castres. Alors on essaie de le désenclaver en mettant l'autoroute, mais bon, vous savez, c'est la fameuse... c'est quoi, la 69, le, contre laquelle il y a toutes ces manifestations et ces blocages provoqués notamment par des boomers écolos. Mais ce sont des endroits qui souffrent un petit peu d'avoir été effectivement périphérisés encore plus. Et donc... bah, du coup, ils subissent un petit peu cette, cette évolution. Je pense que ça vient de là. SC First. Philippe, bonsoir et merci. Pourquoi ne proposez-vous pas Tipeee Stream, 8% de taxes contrairement à 30% sur YouTube, et qui permet de faire des dons via PayPal? Alors ça, je ne savais pas. Tipeee Stream, je sais pas. Alors, je connais Tipeee, Tipeee Stream, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est en diffusant le Tipeee dedans? Je sais pas. On avait rapatrié sur YouTube parce que c'était plus simple, à la fois pour les stats et aussi pour avoir juste une offre, enfin, pour que ce soit plus simple, quoi. Et puis pour les accès, ça évitait d'avoir multiplié les liens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça, même si effectivement, du coup, il y a une partie qui s'envole en YouTube. Bon, on espère que ça stimule aussi l'algo YouTube de voir qu'il y a un peu plus d'argent qui circule sur la chaîne, mais ouais, c'est compliqué. Après, sur Tipeee, vous pouvez toujours y aller pour faire, comme je le dis, soit les tout petits dons, c'est-à-dire si vous voulez juste balancer une pièce d'un euro, ça fait plaisir aussi, soit si vous voulez faire des dons plus substantiels. Voilà. Et le PayPal, je ne sais plus s'il est affiché. Il y en avait un, mais voilà. Que penser du score de la gauche à Paris, 60% vers un retour de la commune? Ben, je crois que c'est expliqué beaucoup par des gens qui disent qu'il y a une augmentation considérable du taux de logement HLM, donc c'est du clientélisme qui s'est installé très clairement sur place. Il y a tous les financements aux associations, etc. L'État n'y met jamais le nez, il y a eu les manipulations comptables d'Anne Hidalgo, ça fait 20 ans que ça dure, et voilà, et puis visiblement ça va continuer, mais vraiment pour moi c'est des réseaux de clientèle. Il y a aussi autre chose vraisemblablement, c'est que les gens n'aiment pas Rachida Dati, voilà, contrairement à ce qu'on a essayé de vous expliquer, qui était sympathique, dynamique, etc. En réalité les gens ne peuvent pas blairer Rachida Dati parce que cette femme est agressive, désagréable. Alors il y en a qui s'appelait « Ah, elle tape sur les gauchistes », mais il y a aussi plein de gens qui n'aiment pas cette façon de la ramener tout le temps, et ils ont préféré, au fond, ils ont préféré le type qui s'en prend plein la gueule en souriant dans un débat pendant la soirée, plutôt que la bonne femme qui, en fait, s'est foutue de sa gueule et lui a tapé dessus comme la LFiste de l'autre côté. Voilà, et donc finalement, si c'est pour avoir une LFiste droite, je pense que les gens à Paris, parce que malgré tout, le cœur de Paris reste très bourgeois et blanc. Et donc, voilà, il y a des choses qui ne plaisent pas. Aaron, est-ce que LFI est devenu le parti d'opposition à la place, car détesté les médias, critique fortement le gouvernement ou encore conteste l'Union européenne à la place du RN? Ben, pas encore. Je pense qu'on pourra dire que c'est le cas quand on parlera plus de barrage à l'encontre du RN. Et cette mutation, elle n'est pas encore faite, mais on est en train, vous savez, on est comme dans les années 70, je disais. Dans les années 70, le FN a été fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972, si ma mémoire est exacte. Et c'est pendant la décennie 70 aussi que Mitterrand, notamment à travers le congrès d'Épinay, a refait l'union de la gauche. Et donc il a fallu une dizaine d'années comme ça de mutation, pendant laquelle le Parti communiste est petit à petit sorti de son isolement et redevenu fréquentable, alors qu'en même temps, le Front National, lui, devenait infréquentable. Et donc ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Je pense qu'on est entré dans cette séquence au moins depuis le 7 octobre 2023. Je pense que c'est là que ça a commencé. Donc ça va durer encore quelques années, ça, avant d'être véritablement dans cet ordre d'après moi. Aurons-nous donc le fascisme ou le bolchevisme lors de cette révolution ? Plutôt le fascisme, je pense. Enfin, je vous rappelle qu'à la fin, le fascisme et le bolchevisme, c'est à peu près pareil. Hein. Je veux dire, une fois que vous êtes sous Brejnev, la différence avec le fascisme, vous voyez pas trop. Edith de Nantes, que je salue, puisqu'il était là... Il était là à La Roche-sur-Yon pour ma conférence, donc je t'ai repéré. Quid d'une présidentielle qui tourne mal avec une extrême gauche qui refuserait sa défaite, accélération du début de la révolution ou pérennisation du pourrissement ? Ben, si on arrive jusqu'à la présidentielle, que Macron se maintient, je pense qu'effectivement on est sur ce genre de scénario. Deux scénarios possibles, qui dans les deux cas seraient révolutionnaires pareil. Un scénario où... il y aurait trois scénarios possibles. Qui sont peut-être deux. Enfin, je vais essayer de vous les détailler, puis on verra à la fin combien ça en fait exactement. Le premier scénario, Mélenchon qui arrive à être élu, et là c'est un scénario aliéné, violence, etc., parce qu'il aurait contre lui vraisemblablement une Assemblée nationale hostile, pas forcément majoritairement Rassemblement national, mais voilà, ça tournerait à la aliéné véritablement, avec confrontation, probablement des milices dans les rues qui s'en donneraient cœur joie, des ruptures dans le pouvoir, enfin bref. Et à la fin peut-être un Pinochet, donc un truc du genre. Bon, bien sûr s'inscrire dans la révolution européenne, donc difficile de savoir, mais enfin première étape en tout cas ça serait ça. Deuxième solution, élection du Rassemblement National, et là des communes, effectivement, en réaction à ça, des communes avec une répression, et puis on en sort, c'est le scénario commune de Paris. Troisième scénario, élection d'Edouard Philippe, président de la République. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y aurait quand même un gouvernement de droite, si on va par là, et de droite très droite, c'est-à-dire éventuellement Rassemblement National. Et donc, on se retrouve dans un scénario commune, mais peut-être commune moins ou commune molle, je sais pas, à voir. Voilà. Mais dans les trois cas, normalement, c'est un peu raide. Florent Morillis, le scénario le plus probable est-il le second tour Bardella-Mélenchon ? Les élections présidentielles vont-elles ressembler aux élections parlementaires italiennes de 2018 en termes de résultats ? Oui, c'est-à-dire avec la montée du mouvement 5 étoiles et de la Lega de Matteo Salvini, ben, c'est possible. Oui, oui c'est même plausible à mon avis. Une montée de Mélenchon... il commence toujours autour de 10 et après il monte Mélenchon dans les élections, donc je pense c'était quoi déjà son score de premier tour en 2022 c'était quoi déjà son score, je vais vous l'afficher. On va aller s'en souvenir ensemble. Mélenchon avait fait 21,95. Ouais. 21,95. Marine Le Pen avait fait que 23. Elle avait fait que 23 au premier tour. Ouais. Alors, il y avait Zemmour qui prenait 7%. Qu'elle aurait eu, sinon elle aurait été à 30. Ouais. Et puis il y avait des boomers qui votaient encore Macron, ou des actifs qui votaient encore Macron et qui en ont plein le dos maintenant et qui votent. Ouais. C'était qui les autres déjà ? Les autres, ils les ont même pas affichés dans le truc. C'était qui avait ? Il y avait Hidalgo. C'était Hidalgo. Il y avait Pécresse. Oui, Pécresse. Oui, c'est tous les gens en moins de 5%. Ouais, ils ont mis que ceux à plus d'autres. Ouais, donc si Mélenchon montait à 21,95 ou 22, alors que Édouard Philippe était à 18, ben, il sera devant. Hein. Il sera devant. Et comme c'est pas Édouard Philippe qui va prendre des voix, qu'il les prendra probablement à gauche, ça dépendra de ce qu'ils sont capables de sortir comme candidature à gauche. Mais bon, comme il y a tout un bisbille aussi sur la question de la primaire, de toute façon, lui, il s'en fout de la primaire. La fois d'avant, il avait fait 19, donc il avait quand même pris une progression de 2-3 points. Et en 2012, il avait fait combien ? Il avait fait 11. Voilà, donc il monte à chaque fois en plus. Alors ça ne veut pas dire que, hein, ça, c'est pas... il peut y avoir un signe noir mélenchonien où en réalité il se casse la gueule. Mais voilà, il y a le risque, le risque est réel. The struggle is real, qu'il soit au deuxième tour. Salade de Mimi, Toulouse est devenue riche avec le pastel de Nata. Non, c'était le pastel. Le pastel ça me fait penser qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Alors, c'est l'occasion de la minute toulousaine. On va aller vous le chercher. Voilà. Le pastel. Je ne dis pas que c'était pas une blague que vous faisiez, mais enfin, les gens ne le savent peut-être pas. C'est, alors, donc, ça, c'est pas ça. C'est. Zut. Mais il est où le pastel la couleur. Voilà, ça doit être là. Pastel, voilà, c'est ça. Voilà, c'était ça. C'était ça que l'on cultivait dans la région, n'est-ce pas? Dans le Lauragais notamment. Et avec tout ça, on faisait des petites boules qu'on écrasait, qu'on appelait. Alors, semble-t-il, je crois que c'est, on n'est pas sûr exactement, mais une étymologie qui est souvent dite, c'est qu'on appelait ça les coques et que le nom de pays de Cocagne viendrait de là, en fait, vous savez, que ça désigne un peu le paradis sur terre, mais en fait, ça venait de chez nous. Et le fait est que, encore une fois, si vous faites aujourd'hui la route entre Toulouse et Castres, tout le Lauragais, c'est magnifique, c'est un jardin. Vous avez vraiment l'impression que c'est vraiment la nature domptée. Voilà. Donc c'était ça qui avait fait la richesse. Et puis ensuite, comme il y a eu l'indigo qui est arrivé, qui était moins cher, qui venait des Amériques, et d'autres modes de teinture, et ben ça, le marché s'est effondré pour des raisons de concurrence. Alors, voilà. Et voilà ce que j'avais, je pense, à vous dire ce soir. Et je commence à avoir mal à la gorge. Alors attendez, c'est quoi? On va juste regarder ça, parce que c'est intéressant. Ça nous a été envoyé par l'ami Epiphane, je crois. Le Conseil de Paris penche désormais... Attendez, je vous l'affiche. Le Conseil de Paris penche désormais très à gauche. ELV, Parti communiste et LFI pèsent ensemble plus lourd que le PS. Et que l'opposition de centre-droite et de droite. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, vous risquez d'avoir un pari encore plus rouge. À moins qu'il se coalise avec... Je sais pas. Mais, la politique municipale parisienne, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais... ouais, gauche, quoi. Gauche. Bien. Alors, que nous dit l'ami Iruma? Plus rien, ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je pense que c'était plus intéressant que l'émission que j'ai fait la semaine dernière sur le premier tour. Quand on a des résultats un petit peu plus avérés, c'est quand même plus facile à commenter. Je pense que la semaine prochaine, nous aurons le super live privé. Donc pas d'émission publique a priori, sauf si actualité brûlante à dire. Et si je dois refaire cette émission, je vous ai dit sur l'Iran dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est probablement la semaine après, je suppose, qu'on fera ça. Voilà. Écoutez, encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que la technique et l'image vous a pas dérangé. Le stage, je sais que je risque de me faire engueuler par Léo qui trouvera ça hyper moche, mais c'est pas grave. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas pu monter le. C'est ma lampe de bureau qui m'illumine parce que j'ai pas monté le truc d'éclairage, j'ai pas eu le temps. Donc je vous dis merci, n'hésitez pas à partager l'émission, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez découvert l'émission avec la chaîne avec cette émission, n'hésitez pas à aller voir la liste des essentiels en accès libre où vous découvrirez tout un tas de choses que je raconte et plus profondément, notamment ce soir je peux vous renvoyer à l'émission sur le clivage. J'ai mis en ligne aussi le replay de mon passage chez Mathieu Bocoté pour ceux que ça intéresse. Et je ne doute pas qu'ils sont nombreux. Et voilà. Et encore une fois, merci à tous nos soutiens. Merci à tous ceux qui vont prendre la décision de nous soutenir. Même encore une fois, en passant un petit truc, hein, ça aide. Ça aide beaucoup. Je vous dis merci de votre présence. très bientôt, et vous laissez pas faire.